15h49, presque 15h50, le métier d'inhalothérapeute, c'est un métier, un des nombreux métiers là dans nos hôpitaux. Et c'est un mot que vous allez entendre de plus en plus souvent, inhalothérapeute, parce que la COVID-19 s'attaque, quand il y a des complications, ça s'attaque au système respiratoire, aux poumons notamment. Et c'est donc un métier critique. On accueille tout de suite Karine Grondin, qui est inhalothérapeute et qui va nous faire le cours d'inhalothérapeute 101. Madame Grondin, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça fait une inhalothérapeute?
J'espère que vous avez beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait, effectivement. Une inhalothérapeute, ça travaille quand même dans beaucoup de secteurs d'activité, puis des fois qui peuvent être un peu méconnus de la population. Donc, on est bon à l'urgence, on est en première ligne pour tout ce qui est ventilation à domicile, maladies chroniques, dans les épreuves diagnostiques, dans les laboratoires du sommeil, physiologie respiratoire, cardiologie, dans les soins intensifs, autant néonataux avec les prématurés, que pédiatriques, adultes. On est au bloc opératoire. On est en recherche. Les inhalothérapeutes sont sur les équipes de transport interhospitalier et même le transport aérien. Donc, c'est vraiment, vraiment une diversité professionnelle intéressante.
Dans le contexte actuel, un inhalothérapeute en soins intensifs, ça va faire quoi pour les patients qui auront malheureusement des complications à des suites de la COVID?
C'est sûr que pour la COVID, dans le fond, cette maladie-là, on sait qu'elle s'attaque aux poumons, puis que les patients sont en risque de développer des pneumonies. Et dans le fond, on appelle ce qu'on appelle, c'est un processus inflammatoire important, un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc, dans le fond, les inhalothérapeutes vont être appelés à contribuer pour sécuriser les voies aériennes, dans le fond, puis assister au niveau respiratoire ces patients-là, ce qui demande quand même une grande discipline.
Ce qu'on appelle les ventilateurs, est-ce que ce sont les inhalothérapeutes qui les manipulent ou ce sont les médecins?
Ce sont les inhalothérapeutes, dans le fond, qui les manipulent. Par contre, c'est sûr qu'on travaille en équipe. Donc, on travaille avec l'infirmière, on travaille avec le médecin. Puis on est entouré, bien sûr, le bon physio-nutritionniste. Donc, avec l'équipe, on fait des plans de cibles thérapeutiques, dans le fond. Et puis, nous, les inhalothérapeutes, on va être appelés à gérer vraiment toute la portion respiratoire. Donc, le médecin, lui, il s'attend à ce que moi, comme inhalothérapeute, je lui propose un plan d'intervention. Donc, on établit les cibles. Puis lui, il s'attend à ce que je fasse toute l'analyse des gaz sanguins, je regarde la radiographie pour me pister, que je regarde la quantité d'air administré, le niveau de pression à mettre et par la suite, moi j'assure dans le fond la surveillance puis la sécurité dans le fond de l'usager.
Est-ce qu'on a assez d'inhalothérapeutes dans nos hôpitaux présentement?
C'est sûr qu'il y a 4000 inhalothérapeutes au Québec. Je ne sais pas si on va réussir à répondre à la demande, tout dépendant, dans le fond, l'ampleur que va prendre le développement du COVID. Mais actuellement, tout est mis en place. Dans le fond, il y a des plans de réaffectation. L'ordre professionnel a assoupli un peu ses règles. On est en train de mettre en place, dans le fond, des stratégies pour s'assurer d'être capable de répondre à la demande.
Est-ce qu'il y a de l'anxiété chez les inhalothérapeutes, sachant le caractère très infectieux de cette maladie-là?
Bien, écoutez, c'est sûr que quand on regarde, dans le fond, ce que l'Institut national de la santé publique du Québec a publié sur les 11 interventions médicales qui génèrent des aérosols, dans le fond, les particules qui peuvent contribuer à la propagation, il y en a une seule où ce que l'inhalothérapeute n'intervient pas sur les 11. Toutes les autres, on est là. Donc, c'est sûr que ça génère un niveau d'anxiété, mais pas autant de la préparation, mais je vous dirais plus de s'ils tombent malades, qu'est-ce qui va arriver avec leur famille, leurs enfants. À un moment donné, si on n'est pas capable de suffire à la demande, ils se demandent, est-ce que je vais être capable, dans le fond, de faire des plans thérapeutiques adaptés? Puis, vous savez, il y a tous les soins hors COVID qui continuent. Donc, le prématuré, lui, de 24 semaines, va continuer de naître quand même. Ça va prendre un inhalothérapeute pour aller à l'accouchement, pour supporter, dans le fond, le reste de l'équipe. Donc, il y a quand même toute cette préoccupation-là au point de vue des inhalothérapeutes qui demandent quand même de faire des plan pour essayer d'être capable de maintenir toute la qualité des soins qu'on est capable d'offrir.
Karine Grondin, vous êtes inhalothérapeute. Il me semble que le mot inhalothérapeute n'a jamais été aussi prononcé au Québec que depuis deux semaines. Est-ce que je me trompe?
Non, vous ne vous trompez pas. Je m'interrogeais, tu sais, parce que souvent, on entend dire aussi dans les derniers moments là, que, bon, travail dans l'ombre, mais c'est que, dans le fond, nous, on sait qu'on est très apprécié de nos collègues, les infirmières, les médecins avec qui on travaille, toute l'équipe. Par contre, les gens, souvent, c'est qu'on est là dans un moment critique de leur vie où ils sont soit sédatés, soit au bloc opératoire, sont endormis. Donc, ils se rendent plus ou moins compte de qu'est-ce qu'on fait en général, du temps de la maladie qui est critique. Mais par la suite, après ça, on enlève le tube, on enlève le respirateur, puis nous, dans la phase de la réadaptation, on est peut-être moins présent, exemple, en soins intensifs. Donc, des fois, les gens se souviennent pas qu'on c'est a, dans le fond, collaboré à leur rémission.
Vous êtes là quand les gens sont inconscients.
Ben pas juste quand ils sont inconscients, parce que exemple, quand on va sur un accouchement ou quand on en pédiatrie, les enfants nous voient, tout ça, mais il y a beaucoup de gens qu'on traite dans la phase critique. Puis souvent, quand on les voit, des fois aussi, ils nous associent beaucoup bon à l'administration de traitement d'aérosol thérapie, là. Mais ça, c'est qu'une infime partie, dans le fond, de tout ce qu'un inhalothérapeute peut faire, là.
Très bien. Merci beaucoup, Mme Grondin. Saluez tous vos collègues inhalothérapeutes pour nous.
Je n'y manquerai pas.
Merci, Karine Grondin.
Au revoir.
Inhalothérapeute. C'est un métier dont on va entendre parler souvent. Je trouvais que c'est important de leur donner une voix. Et c'est Karine Grondin qui le fait. Philippe, tu veux nous parler de Mario Cuomo?
Oui, en fait, de son fils.
Andrew Cuomo,
qui est le gouverneur de l'État de New York. Je veux t'en parler parce qu'au Québec, on le sait, là, Horacio Arruda est devenu une vedette au cours des dernières semaines. Et avec raison, ben, dans l'État de New York, Andrew Cuomo, le gouverneur, est également une vedette. Lui, il a été marié à la fille de Robert Kennedy. Oui, Robert Kennedy, le sénateur assassiné en 1968. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Ils sont séparés aujourd'hui. Mais il est le fils de Mario Cuomo. Et Mario Cuomo est lui-même un ancien gouverneur de l'État de New York. On a longtemps pensé qu'il serait candidat démocrate à la présidence des États-Unis. Mario Cuomo, parce qu'il avait fait un speech extraordinaire à la convention de 1984. Finalement, il ne s'est jamais présenté. On a pensé la même chose de son fils. Lui aussi, Andrew, va un jour se présenter pour la présidence. Il a écarté l'idée il y a un an. C'est un show partisan de Joe Biden, mais sa cote politique monte vraiment en flèche aux États-Unis.
Merci, Philippe.